Prise de terre, Lucille Solari.
Bonjour à tous et bienvenue sur Terre. Imaginez des cimes enneigées qui se détachent sur un ciel pur. Une forêt d'épicéas, de verts pâturages, des vaches forcément noires qui font teinter leurs cloches. Et puis bien sûr un lac dont les eaux scintillent sous la caresse des rayons du soleil. Et bien voilà ce que j'appelle un beau paysage tout droit sorti de mon imagination d'ailleurs. Alors vous avez peut-être eu le sentiment de le reconnaître, ce paysage, c'est pas tout à fait un hasard, puisque j'y ai mis quelques éléments qui font la spécificité de nos paysages suisses. Une spécificité, une diversité protégée depuis 1977 par l'IFP, l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale, inventaire en cours de révision aujourd'hui au moment même où l'un de ces 162 objets est menacé par un projet industriel. Alors à quoi ça sert un inventaire fédéral des paysages? Et puis est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne en tant qu'outil d'aménagement du territoire? Puis finalement, qu'est-ce que c'est qu'un beau paysage? Qui décide que ce paysage est plus joli que celui d'à côté? Eh bien pour le savoir, nous irons sur la colline du Mormon avec Sarah Dirène et Michel Bongard de Pro Nature Avo, la colline du Mormon étant précisément ce site menacé par un projet industriel. Et puis nous recevrons également Benoît Magnien, chef de la section gestion du paysage à l'OFEV. Et puis un paysage sans oiseaux, qu'est-ce que ce serait? Ce serait juste une carte postale un petit peu triste. Alors nous irons au col de Jaman, vous savez le col de Jaman, juste au-dessus de Montreux, où doit faire beau d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'on est à 1500 mètres d'altitude. Et c'est là que chaque année, des ornithologues amateurs enthousiastes capturent pour les baguets plus de 10 000 oiseaux. Voilà ce que je vous propose ce matin dans Prise de terre. Mais avant cela, évidemment, il faudra passer par la case grenouille.
Faites chauffer la grenouille!
Bonjour Adrien Zerbini.
Bonjour Lucille Solari.
Comment va la grenouille aujourd'hui?
Elle va relativement bien, elle est en crise mystique. Elle se passionne pour une grande fête qui a débuté hier dans les plaines du sud du Népal, à 160 km de Katmandou. C'est la Gadhimai Mela.
Pardon?
La Gadhimai Mela. C'est une grande fête hindoue donc qui a lieu une fois tous les 5 ans. C'est la célébration de la déesse hindoue Gadhimai. Gadhimai, j'y arrive pas, elle a un nom assez compliqué.
C'est assez compliqué, ouais.
Alors, c'est la déesse du pouvoir.
Je vois pas le rapport avec l'environnement, surtout, là.
Alors, il y a un rapport avec l'environnement, plus précisément avec l'impact sur la faune, parce que la Gadhimai Mela est l'occasion du plus grand sacrifice rituel d'animaux au monde.
Je commence à comprendre.
En 2009, pendant les festivités, environ 500 000 chèvres, buffles, cochons, poulets, pigeons, canards et même souris blanches ont été sacrifiés pour faire plaisir, dit-on, à Gadhimai, et aux grandes dames de Brigitte Bardot, et disons-le aussi, de la grenouille. Alors, pour clarifier cette situation, notre grenouille a lancé un coup de fil à qui?
À Gadhimai.
Exactement, la déesse du pouvoir, qui, comme on s'en doutait, enfin, la grenouille s'en doutait, trouve tous ces massacres assez sordides. En plus, elle-même ne mange pas de viande. D'ailleurs, comme tous les personnages divins qui se respectent, elle ne mange plus rien du tout.
D'ailleurs, la grenouille non plus ne mange pas de viande. Cela dit, je note qu'elle a, comment on appelle ça, relation particulière avec le divin, puisqu'elle peut appeler les divinités
alors,
qu'elle souhaite.
En fait, elle vient d'acheter un nouveau téléphone portable et elle a pris un pack qui s'appelle, elle m'a marqué, l'option cosmologie et divinité qui est offerte par Batracic Phone, apparemment.
Oui. Vous savez qu'on n'a aucune option de ce type chez les humains. Ça marche bien.
C'est ce que je lui ai dit. Alors, étonnamment, ça marche bien. Il y a encore quelques finesses qui échappent à la grenouille. Par exemple, il y a un numéro de téléphone différent pour Dieu et pour Allah, alors que pour la grenouille, il s'agissait de deux noms pour une seule et même divinité. Du coup, ni une ni deux, elle a décroché son téléphone et elle a appelé Allah. Et tant qu'à faire, elle lui a demandé si c'était vraiment indispensable de tuer tous ces moutons à l'Aïd, puisqu'elle était sur ces histoires de massacres rituels, vous voyez. Et là encore, les chiffres sont effarants, on le sait. Et Allah semblait trouver cette habitude plutôt ringarde, dépassée.
D'accord, comme ça c'est clair.
Et pour ne pas faire de jaloux, la grenouille ensuite a appelé notre Dieu, le Dieu des chrétiens.
Parfait, comme ça on fera plaisir à tout le monde.
Absolument tout le monde, parce qu'en plus elle voulait
On se fâchera avec tout le monde, je ne sais pas.
C'est le courrier qui le dira. Elle voulait lui parler d'un passage de la Genèse, qui est, vous le savez, le livre fondamental non seulement de la chrétienté, mais aussi du judaïsme. Elle l'a entretenu du chapitre 9, verset 2, dont vous vous souvenez, Lucille.
Mais bien entendu. Mmh. Enfin, je préfère que ce soit la grenouille qui parle de la Genèse.
Alors,
quand
ça
même.
Se passe juste après le déluge. Vous vous rappelez, Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit ceci. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Puis il ajoute quand même un petit quelque chose. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Et la dernière phrase est la plus belle. Tout ce qui se meut et qui a la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte.
Dis donc, Prise de Terre devient carrément une émission biblique, là. Hein.
Oui, et puis on redécouvre quand même, hein, c'est vrai, on redécouvre la Genèse. Alors, Dieu a expliqué à la grenouille que ces déclarations grandiloquentes ont été faites il y a très 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 longtemps. Il n'y avait pas 7 milliards d'humains sur Terre, il n'y avait pas d'usine à viande. Tout ceci n'était pas prévisible à l'époque de la Genèse. On était loin d'imaginer une révolution industrielle, une explosion démographique. Alors, aujourd'hui, pas besoin d'avoir un prix Nobel pour comprendre que ça n'est plus possible de manger tous ces animaux. Il faudrait 3 terres pour que le système tienne le coup durablement, et nous n'en avons qu'une. Et puis Dieu a ajouté que surtout, il ne fallait pas, au grand jamais, manger de grenouilles.
Ah, c'est bien ce qui me semblait, hein, ces histoires de téléphone divin. C'est juste pour la grenouille une façon de faire passer ses idées.
Alors, c'est ce que j'ai cru aussi.
Qu'elle est maligne, la grenouille. Je la connais depuis le temps.
Mais elle m'a dit que Dieu avait tenu à ajouter une chose concernant la protection des animaux, une chose qui m'a semblé assez sensée, voyez-vous. Si vous, les humains, voulez vraiment protéger les animaux, vous devriez mieux choisir leur défenseur, a-t-il dit. Par exemple, une ancienne star des 60s, reconvertie en dragon raciste, prônant l'intolérance généralisée et considérant Marine Le Pen, je cite, comme la Jeanne d'Arc du 21e siècle, qui va donc sauver la France, ça n'est pas forcément une ambassadrice bien choisie. À hauteur de grenouille, c'est clair, l'homme est presque un animal comme les autres. Si on aime les animaux, le mieux ce serait encore d'aimer aussi et un peu le genre humain.
La beauté qu'on délaisse, pour les soleils qu'on n'a pas vus, les passions qu'on n'a pas vécues, pour l'ignorance et la paresse. On va, on vient, on rêve, on parle, on va, on vient, on rêve, on parle. Je suis venu tendre et stupide, hanter la maison du bonheur. J'y suis entré comme un voleur et j'ai trouvé la maison vide. On va, on vient, on rêve, on parle. On va, on vient, on rêve, on parle. On rit, on rit. Tu m'as dit, regarde la lune, mes yeux n'ont pas quitté ta main. Reste un regret sur mon chemin, reste un reflet sur la lagune. On va, on vient, on rêve, on parle. On va, on vient, on rêve, on parle. On rit, on rit. On rit jusqu'à rêver qu'on peut changer de rôle. On rit pour oublier que tout ça n'est pas drôle. J'ai voulu voir la vie en rose, mais les couleurs sont ce qu'elles sont. On aime à perdre la raison en désespoir de toutes les causes. On va, on vient, on rêve, on parle. On va, on vient, on rêve, on parle. On rit, on rit, on rit jusqu'à rêver.
Ah, aujourd'hui, il pleut.
Oui, aujourd'hui, il pleut, Michel Bongard. Il pleut et c'est peut-être mal tombé puisqu'on va admirer un paysage. On s'est arrêté juste au bord de la route. On fait face à la colline du Mormont, colline que vous défendez ardemment.
Oui, on est entre Cossonay et la Sarra. On voit la colline du Mormont là, qui s'étend. On ne voit rien, on ne voit pas de trou. On voit une magnifique colline. Maintenant, en automne, il y a des couleurs jaunes dans les arbres. on est au milieu du monde, comme on dit. Et à cet endroit-là, très particulièrement, on a une roche tout à fait intéressante pour le ciment, mais aussi pour la nature.
Là, on voit effectivement cette petite colline. En bas de la colline, plein d'habitations. Donc, il y a juste un bout qui est protégé.
Oui, le bas, c'est le village des Clépons. Mais ce secteur-là, il n'est pas menacé. En fait, c'est derrière qu'il y aura un immense trou qui va se poursuivre. Il est déjà énorme, hein, on le voit bien depuis Clépons. Et il va détruire en fait tout ce qui constitue cette mosaïque de milieux tout à fait particulier. Et nous avons décidé de nous engager et de sauver ce patrimoine qu'on considère comme d'importance nationale.
Ben oui, un paysage d'importance nationale et même protégé en tant que tel. Alors je mets quand même le mot protégé entre guillemets, puisque cette colline du Mormont, dans le canton de Vaud, figure au nombre des 162 objets de l'IFP, l'inventaire fédéral des paysages et des sites. Alors je disais, je mets le mot protégé entre guillemets, parce qu'on va voir que ça n'est pas parce qu'un site est inventorié qu'il en devient totalement intouchable. Exemple donc avec cette colline du Mormont, que vous avez choisi Sarah Diren, non pas parce qu'elle était un ancien lieu de culte pour les Celtes, si j'ai bien compris, ni même parce qu'elle est située sur le partage des eaux du Rhin et du Rhône, mais parce que les roches du Mormont alimentent une cimenterie, la cimenterie Holcim, pour ne pas la nommer.
La cité. Ouais. Et ça, depuis les années 50, la colline, et vous l'avez entendu, la colline est passablement grignotée. Holcim produit 800 000 tonnes de ciment par année, mais son sommet est intact. C'est en fait son sommet hein, qui est inscrit à l'inventaire fédéral des paysages. Alors, il est intact pour l'instant, hein, car il est menacé de décapitation par un des projets d'extension de la grande carrière des Clépons. Même si le projet d'extension prévoit des mesures de compensation écologique, par exemple, si l'exploitant aura tout rebouché de façon à ce que, en 2100, la colline retrouve sa silhouette d'avant 1950.
Oui, mais enfin, c'est loin, 2100.
Bah oui, mais c'est pour cela que diverses associations se sont mobilisées pour préserver ce sommet du Mormont. Parmi ces associations, l'organisation environnementale Pro Natura. C'est d'ailleurs avec le secrétaire exécutif de Pro Natura Vaud, Michel Bongard, que je vous propose de découvrir, alors évidemment dans le brouillard et sous la pluie, ce paysage d'exception.
Alors, gardez-vous derrière.
C'est bon. Je conduis, vous tenez le micro.
Alors, pour y aller, on descend donc maintenant dans la plaine de la Haute-Venoge. On va donc traverser la Sarra pour aller sur la colline du Mormont. On va passer par ce qu'on appelle le secteur de la Birette, où aujourd'hui on a encore des grandes terres cultivées, mais demain il y aura un énorme trou parce que l'extension, que nous acceptons d'ailleurs, l'extension passera justement là où nous allons aller. Et dans ce secteur-là, il y a quand même des valeurs, même si on est dans de l'agriculture relativement intensive, parce qu'en bordure des champs survivent quelques espèces qu'on appelle messicoles, qui sont liées à la production des céréales. Eh bien, elles sont tout à fait exceptionnelles. Se posera la question de les sauver.
Vous dites, Michel Bongard, nous acceptons l'extension. Vous acceptez jusqu'où ?
Alors, on reconnaît l'importance de la production du ciment, puisque bien sûr, elle est nécessaire pour construire, refaire tous nos bâtiments, bien qu'on ait les moyens de récupérer les anciens ciments pour en refaire du neuf. Mais il s'agit de ne pas tout donner à l'industrie et aussi de veiller à ce qu'elle exploite de manière durable. Et là, c'est durable dans le temps, que l'exploitation ne s'achève pas dans les 10 prochaines années, parce que la demande est telle qu'il faut creuser tout d'un coup.
Oui, mais où creuser ?
Alors, là où nous sommes, sur le principe, nous acceptons qu'on vienne creuser. Mais ce que nous voulons pas, c'est ce que là, on verra un peu plus loin, c'est ce qui est le sommet du Mormont. Et c'est là l'endroit tout à fait particulier.
Je vais à gauche, toi à droite.
Alors là, on va aller à droite, parce que là, que ça commence à devenir serré. On va aller tout doucement, on va à gauche.
Gauche.
Là, vous voyez, on voit bien cette petite falaise. On voit ce calcaire jaune dessous. On voit ces petites plantes qui s'accrochent à côté du lierre. Et ça, c'est des milieux tout à fait intéressants qui sont liés aux conditions géologiques particulières du Mormont.
Elle est où, la limite ?
Alors, la limite du périmètre de l'inventaire fédéral des paysages d'importance nationale a été définie autrefois en tenant compte des besoins de l'industrie du ciment. Et ça, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas maintenant dire « Bon, alors on n'aura pas assez ici, il nous faut encore le sommet. » Et c'est justement c'est ce sommet qui est si précieux. Oh, les croisements sont difficiles, hein, petite route. Ça, c'est une zone de compensation qu'a faite l'exploitant. Intéressant, tout à fait de qualité. Bon, c'est peut-être un petit peu trop aligné. N'empêche qu'on a un habitat qui est en train de se constituer et qui figure parmi les mesures de compensation qu'a mis en œuvre l'exploitant dans le cadre de l'autorisation qui lui a été donnée d'exploiter ce que nous allons voir un peu plus loin, en dessus de, des Clépans. Bah tiens, arrêtez-vous là. Alors là, ils font du carottage. En fait, c'est de prendre des échantillons de la profondeur des roches, puisque là, on est dans la limite de ce que sera l'exploitation future sur laquelle nous entrons en matière, à condition de compensation, bien évidemment. Mais c'est pour, en fait, analyser quelles sont les roches qui sont sous nos pieds, et qui sont le potentiel d'exploitation pour produire ce ciment.
Ça veut dire qu'ici, ce sera creusé prochainement?
Oui, on est dans le périmètre d'extension qui est encore actuellement agricole. Et à nous maintenant de veiller à ce qu'on n'ait pas mangé cette forêt qu'on voit juste derrière. Puisque dans ces forêts, dans ces tilleraies et ces chênaies, au printemps, nous avons les jonquilles. Les jonquilles qui fleurissent et qui attirent beaucoup de visiteurs, on peut suivre des petits chemins très sympathiques. Et bah ça, c'est le gros risque que ça disparaisse.
On s'arrête ici? On continue?
Oui, alors on peut s'arrêter ici et puis on va aller voir dehors comment c'est. D'ailleurs, voyez le calcaire jaune, ça c'est ce qu'ils appellent le sucre, le meilleur.
Alors ici, on arrive évidemment dans une zone qui est un tout petit peu plus désertique.
Oui, alors là, on est dans la zone de l'exploitation. Il y a la clôture qui marque bien la limite. Et un petit peu derrière, là-bas, derrière ce petit horizon qui n'est pas très loin, il y a un énorme trou, vous verrez, c'est extrêmement profond. Et en fait, d'exploiter cette zone-là, c'est envisageable, mais il faut la compenser. Ce que nous ne voulons pas, c'est que soit détruite la colline sommital du Mormont, qui est derrière nous, là, un petit peu dans les arbres. Bon, il n'y a juste pas assez de brouillard pour nous le cacher, on le voit bien. Et c'est là, en fait, qu'il y a aussi des trésors archéologiques, c'est certain, mais surtout cette flore et cette forêt si particulière du Mormont.
Mais ça veut dire que vous vous battez avec le canton, avec la Confédération? Vous vous battez, vous avez quelle arme?
Point naturel, droit de recours des organisations environnementales. Et grâce à ce droit de recours, nous pouvons intervenir lors des mises à l'enquête et demander, si nécessaire, que la justice tranche sur les décisions que prendront les autorités. À notre sens, la pesée des intérêts devra conduire, puisque c'est ça que nous voulons, devra conduire à la protection définitive du Mormont. Mais le chemin est encore long et je pense que nous devrons nous battre. Parce que le lobby du ciment, c'est du solide.
Prends ça.
Alors moi, je tiens. Prends ça. Ah oui, c'est de la ferme.
Carrière du Mormont. Attention, zone de carrière, danger, tir de mine. Mais c'est un chemin pédestre. Mais lorsque je regarde ici ce paysage, Michel Bongard, bah, il peut être aussi très très beau.
Tout à fait. C'est un paysage qui est exploité, c'est un paysage qui est remodelé, mais c'est aussi un paysage qui disparaît, puisque cette colline sur laquelle nous sommes, elle ne sera plus là dans quelques temps. Et puis, si on pense à ce qu'on voit autour de nous, des endroits comme ici, dans le canton, il y en a très très peu. Il n'y en a pas qui sont placés d'abord au milieu du monde, hein, à la séparation des eaux entre ce qui coule dans le Rhin et cette eau et l'autre eau qui coule dans le Rhône. On n'a pas d'autres endroits où, si on va se balader plus tard dans la forêt, où on verra des petits chemins qui passent dans ces tilleuls, qui passent dans cette forêt assez claire en fait, avec deux strates, une strate herbacée et puis une strate arborescente. Ça, il n'y a pas ailleurs. Il n'y a qu'ici qu'on trouve ça. Alors, bien sûr, de le faire disparaître, bah, ceux qui ne l'auront jamais vu s'en rappelleront pas. Par contre, nous qui sommes là aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de veiller à conserver ça. Et bah, bien sûr, là, on se promène sur des cailloux. Ils sont beaux, ces cailloux jaunes. Hein, ça fait de la chaille. Bon, là, en l'occurrence, ça servira à fabriquer du ciment. Mais en fait, on va en fait, détruire cette caractéristique. Parce que là, on est vraiment dans un milieu nu, dans un milieu minéral. Si vous venez ici, quand il y a du soleil, ça fait mal aux yeux, c'est très fort. Donc, oui, en soi...
Le paysage est pas mal.
C'est autre chose, mais disons, c'est un paysage remodelé, on a des tas de terres qui sont de différents types, on sent qu'il y a eu en fait des bouleversements. Alors, les paysages bouleversés, moi je les aime bien au pied des glaciers, mais pas ici, non.
Non, très belle roche. Donc ici, on arrive bientôt au sommet de la colline, de cette colline sacrée que vous défendez.
Oui, alors on s'approche du pied du Mormon, on est en bordure de la grande carrière de Holcim. On entend des machines qui travaillent et on voit que la progression, elle est rapide. Hein, entre les tas qui ont été remodelés, sur lesquels la végétation s'est réinstallée, et ce qui arrive juste derrière, ben on sent qu'il y a peu de temps, hein, que ça va vite. Mais c'est pas perdu pour tout le monde, il y a le faucon pèlerin qui s'installe ici, qui niche quelque part dans ces falaises.
Ah oui, on voit les engins qui creusent. Et ça, dans quelques années, dans une dizaine d'années, ben ça va être grignoté.
Alors, oui, ce qui va en direction de la Sahara, ce qui est hors du périmètre, pourra être exploité. Bon, les conditions sont encore à définir. Par contre, ce qui est derrière nous, ça n'est pas encore prévu, mais les discussions sont en cours et c'est ce qui nous inquiète particulièrement pour voir dans quelle mesure ça pourrait être déclassé. Et c'est là qu'est le danger, et à nous de prouver en fait qu'il ne faut pas déclasser ce qui est derrière nous et que la décision qui reviendra bien sûr au Conseil fédéral de déclasser ce périmètre, de dire bon bah ça on peut l'exploiter, à nous de montrer en fait que c'est aussi d'importance nationale que de conserver ces milieux si particuliers.
Bon, on a déjà trop marché, on est enfin au sommet, on voit pas grand chose parce qu'il y a du brouillard. Voilà, ici, ça, cet endroit-là, sera toujours défendu.
Voilà, alors on est au sommet du Mormon, là. On a monté ces petits escaliers dans la forêt. Vous voyez comme c'est des buissons. Vous voyez comme on n'a plus ces grands arbres. Pourquoi ? Parce qu'ici, le sol, il est particulièrement peu épais, puisqu'on est vraiment sur de la roche. Mais vous voyez aussi autour de nous que le petit gazon qui nous entoure avec ces petits buissons qui sont un petit peu plus loin, eh bien, il n'y en a plus beaucoup de ces surfaces comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on a abandonné depuis longtemps la pâture. Mais ça ne se fait plus, donc ça se rembuissonne. Tout se referme, vous voyez, là, on est au sommet de la colline, mais on est entouré d'arbres, bien qu'il y ait eu cette petite coupe qui est ici en bas.
Oui, mais c'est-à-dire que la nature reprend ses droits. C'est une image idyllique que vous voulez préserver, finalement.
Oui, c'est une image idyllique, mais c'est aussi une biodiversité idyllique, puisque la biodiversité, elle est liée aux activités des êtres humains, elle est liée aux activités des agriculteurs d'autrefois, et la conserver, c'est de maintenir en fait cette forme d'exploitation extensive. Bien sûr que la dynamique de la végétation est permanente. Les papillons de la forêt, ils sont très beaux, mais les papillons des prairies sont aussi très beaux. Si la forêt s'installe partout, il n'y aura plus de papillons des prairies, il n'y aura plus d'orchidées. Donc, vous voyez, on est dans cet équilibre précieux entre notre activité sur la nature et la nature dans sa dynamique qui, elle, est conditionnée par le sol, la végétation et par le climat. On redescend ?
On redescend. Vous avez rendez-vous tout à l'heure avec la commission de suivi pour ce dossier qui est un peu brûlant. Plusieurs parties. C'est houleux.
Non, 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 c'est tout à fait calme.
À côté de vous, dans la commission de suivi, se trouvent également les membres de l'association pour la défense du Mormon.
Oui, alors. Il y a aussi le président de l'association Sauver le Mormon qui s'est constitué à Éclépont et à la Sahara, puisque ça, ce sont les habitants de la région qui se préoccupent de l'avenir de leur patrimoine et nous soutenons alors vivement leurs efforts pour promouvoir les qualités du site et puis pour veiller en fait à sa défense à côté de nous.
Une défense justement qui est très tripale, hein. Enfin, on est attaché à un paysage également.
Bah, disons, il faut un petit peu d'émotion pour défendre la nature. C'est pas avec ça qu'on va faire de l'argent. Donc, les motifs sont des motifs aussi émotionnels. On est complètement dans l'émotionnel. Mais nous nous fondons aussi sur des reconnaissances scientifiques. On a des espèces qui sont dans les listes rouges, des espèces menacées en Suisse. Donc ça, c'est du solide. Mais bien sûr que fondamentalement, il y a un plaisir, un goût pour la nature d'apprécier le silence.
De la pluie.
Voilà. De l'autre côté du moment, nous étions tout à l'heure, hein, vous avez senti hein, ce silence. Il n'y a pas un bruit là-bas, c'était pas mal, sauf la pluie. Donc oui, on a aussi nos émotions et que nous portons en avant.
Vous l'aimez, hein, ce mormon?
Bah ouais, bien sûr, ouais.
Voilà, merci à Michel Bongard qui a osé se mouiller ce jour-là. Michel Bongard, secrétaire exécutif de Pro Natura, vaut un reportage signé Sarah Dirène.
Environnement, nature, cadre de vie, c'est Prise de Terre.
Peut-on faire coexister préservation du paysage et aménagement du territoire? C'est le sujet de notre dossier ce matin dans Prise de Terre, préparé par Sarah Dirène. Depuis 1977, la Suisse possède un inventaire fédéral des paysages, donc 162 objets y sont inscrits, ce qui représente 19% de notre territoire. Voilà pour les chiffres. Objectif de cet inventaire, tel qu'il est libellé en tout cas sur le site de l'OFEV, protéger et conserver la diversité des paysages en Suisse. Alors on y trouve notamment les chutes du Rhin, le glacier d'Aletsch, les rives sud du lac de Neuchâtel, le Lavaux, ou encore dans la catégorie monument naturel, parce qu'il y a aussi une catégorie monument naturel, les pyramides d'Euseigne. Alors je ne cite là que quelques-uns des paysages les plus emblématiques et dont la première qualité, celle qui saute aux yeux si j'ose dire, c'est d'être un peu une carte postale, hein. C'est en fait un argument de poids pour l'industrie touristique. Mais évidemment, la qualité d'un paysage ne se mesure pas seulement à sa fonction économique, elle en a bien d'autres. Alors, si un paysage ne sert pas seulement à faire joli, à quoi sert-il? Qu'est-ce que c'est qu'un beau paysage? Qui décide que c'est un beau paysage? Bien, le mieux, c'est de poser la question directement au chef de la section gestion du paysage à l'Office fédéral de l'environnement, Benoît Magnien. Bonjour.
Bonjour.
Quelle était l'idée en 1977 quand on a créé cet IFP? Je crois que c'est le plus ancien inventaire qu'on ait jamais créé en Suisse. Alors depuis, on en a fait beaucoup, hein, parce qu'on est très fort pour les inventaires.
On doit remonter même avant 1977. En fait, l'idée, l'inscription de la protection de la nature dans la Constitution fédérale est des années 60. Et là, dans cet article constitutionnel, il est déjà question de désigner quels sont les plus beaux paysages du pays. Je pense qu'on était dans un boom d'activité économique. C'est comme ça qu'on explique, disons, l'émergence de cette thématique dans les années 60. Donc, il y avait une demande sociale de la population qui était claire, de garder certaines valeurs dont elle percevait la disparition. Donc ensuite, qui dit demande sociale dit intérêt politique. Le politique s'est emparé de l'affaire pour, en 1966, arriver à une loi sur la protection de la nature du paysage qui prévoit cet inventaire.
Ouais, c'est-à-dire, c'était au moment, effectivement, boom économique, on bétonnait un peu à tout va, il y avait le plan Birman à l'époque pour construire des autoroutes. Et tout d'un coup, la population s'est dit, attendez, oh, doucement, peut-être que faut quand même faire un petit peu attention à notre environnement, au paysage qui nous entoure.
J'étais certainement content de la poussette à l'époque, mais je pense que votre interprétation, elle est
correcte. Oui, j'interprète là, totalement.
Tout à fait. Non, mais il y a des documents historiques qui établissent, disons, l'histoire, la protection de la nature, l'environnement du paysage en Suisse et qui rejoignent exactement ça.
Oui, mais Benoît Magnien, il y a une différence entre protéger une biodiversité et protéger un paysage. Qu'est-ce que c'est un beau paysage?
Alors, la différence entre la biodiversité et le paysage, c'est l'homme.
Parce qu'on a aussi un inventaire de la biodiversité.
On a des inventaires biodiversité, c'est un inventaire que je qualifierais de plus technique, qui sont destinés à couvrir les besoins fondamentaux des espèces qui coexistent avec nous sur ce territoire petit qu'est la Suisse. Quand on parle paysage, en fait, le client principal, c'est plus les papillons, les oiseaux, les sangliers, c'est l'homme. C'est l'homme. Cet homme, il peut venir du Japon aussi, on est bien d'accord. Donc, les valeurs qui vont décider quels sont les paysages qu'on va perpétuer ou qu'on va garder, ils proviennent de l'homme. Et là, on a, bien sûr, on se dit, quand on parle d'appréciation du paysage, on se dit, oui, c'est subjectif. En fait, bien sûr qu'il y a cette subjectivité, mais il y a des grandes tendances qui traversent la société, qui sont liées à des imprégnations qui viennent de notre passé, des autres imprégnations qui sont donc culturelles, qui font que on constate aussi par des études scientifiques, on constate qu'il y a des valeurs communes, des points communs aux paysages qui sont perçus par la population comme étant dignes d'être protégés.
Ce qu'on voit donc dans les calendriers.
Mais oui, et ces calendriers, les gens les achètent, ces paysages, les gens viennent les visiter. Donc, on voit bien qu'on répond à une attente de l'homme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent visiter des zones industrielles pour leur plaisir.
Alors, pour revenir deux secondes quand même sur cette colline du Mormont, qui est donc inscrite à l'IFP. Alors, elle est inscrite à l'IFP. Pourtant, elle est menacée de déclassement par un projet industriel. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de protection à géométrie variable à l'IFP? C'est-à-dire que ce qu'on veut bien protéger un jour, ben, peut-être demain, en raison des nécessités économiques, ben, on sait pas, on reverra notre position. Parce que c'est ce qui est en train de se passer.
Bien sûr, on est dans le monde réel. La législation, elle est faite par le Parlement. Au Parlement, il y a différents intérêts qui sont représentés. Et ça se retrouve dans la conception de la législation. Donc, la loi sur la protection de la nature pour l'IFP, elle dit pas que ces paysages nationaux sont intangibles. D'ailleurs, vous l'avez dit, ce serait même impossible de dire qu'ils sont intangibles puisque la nature elle-même
évolue.
Elle fait qu'il y a une immense dynamique dans tout ces paysages. Le législateur a prévu des cas d'exception. Comme il y a un intérêt national à protéger cet intérêt national, par exemple, les installations qui servent à la sécurité de l'aéroport de Cointrin, qui se traduisent par une construction sur le sommet de la Dôle, qui figure à l'inventaire IFP, c'est une belle illustration d'une exception qui est normale. Idem pour d'autres
intérêts.
D'accord,
mais préserver un paysage, il y a aussi un intérêt national, parce que il y a un intérêt économique à préserver un paysage. Au-delà de l'aspect esthétique, de l'aspect éventuellement environnemental avec la biodiversité, mais je le citais tout à l'heure, l'intérêt économique, il est touristique et c'est quand même une manne importante dans l'économie suisse, le tourisme.
Ah, mais vous avez entièrement raison sur la valeur économique du paysage. Une étude du secrétariat à l'économie estime la valeur du paysage à une septantaine de milliards de francs liés au tourisme. Si vous allez sur le site internet de Swiss Tourisme, vous regardez quelles sont les destinations pour lesquelles il y a une publicité qui est faite. J'ai fait moi-même le calcul. Les trois quarts des destinations sont des endroits qui figurent à l'inventaire des paysages nationaux. Maintenant, pour répondre à votre question, comment on va décider si c'est l'intérêt économique ou l'intérêt de protection, de maintien du paysage qui l'emporte? Il y a ce qu'on appelle une pesée des intérêts. Cette pesée des intérêts, elle est faite par une autorité désignée et elle va avoir à regarder dans les deux côtés de la balance ce qui s'y trouve. Pour pouvoir prétendre à une pesée des intérêts dans un site IFP, il faut se prévaloir du côté, je dirais, économique ou autre, aussi d'un intérêt national.
Est-ce qu'il y a des exemples d'objets qui ont été déclassés déjà?
Non, il n'y en a pas.
Pas encore.
Mais je dirais que la tendance n'est pas au déclassement. Je crois qu'il y a le politique a pris conscience de la préoccupation de la population pour la protection de ces... Finalement, c'est des sites emblématiques, c'est un peu les bijoux de famille de la Confédération. C'est pas la tendance à demander de biffer des objets ou d'en déclasser. C'est pas non plus la tendance d'en ajouter des supplémentaires, quoique j'ai perçu certains signaux de certains cantons qui réfléchissent à proposer à moyen terme au Conseil fédéral l'inscription de nouveaux objets.
Alors, du côté des amis de la colline du Mormont, peut-être qu'on peut dormir sur ses deux oreilles. Je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, j'écoute vos propos. ProNatura demande une meilleure protection des objets IFP. Un projet de valorisation de l'IFP est en cours. Vous en parliez tout à l'heure, hein, donc qui vise à améliorer l'ancrage de l'inventaire dans la politique d'aménagement du territoire. Est-ce qu'il faut comprendre que finalement cet outil, parce que si j'ai bien compris, l'IFP c'est un outil de pesée d'intérêt, mais est-ce que cet outil n'est pas inadapté finalement par rapport à ses objectifs? Parce que s'il y a une révision, s'il y a des associations qui demandent plus, qu'il y ait une meilleure prise en compte dans l'aménagement du territoire de cet IFP, c'est que finalement il a mal fonctionné jusqu'ici.
Effectivement, l'IFP est un outil qui souffre d'une faiblesse, qui trouve sa racine dans la conception même de la Confédération suisse, qui prévoit un partage des compétences. Et le Conseil fédéral, la Confédération, n'a des compétences relativement limitées en termes de protection du paysage qui lui sont données par la Constitution fédérale. Et la compétence qu'elle a, c'est de faire cet inventaire et de le respecter. Donc, finalement, le législateur dit à la Confédération, tu peux bien faire un inventaire, on te donne même le mandat de le faire, tu vas le respecter, tu vas balayer devant ta porte, tu vas montrer l'exemple. Par contre, la faiblesse, qui est un peu, même presque un peu des fois paradoxale, qui amène à des situations paradoxales, c'est que cet inventaire est beaucoup moins liant, pour pas dire pas du tout, pour les cantons et les communes.
Ouais, pas de mesures contraignantes.
Peu contraignant, ou alors les cantons décident eux-mêmes de se contraindre à respecter l'IFP, d'ailleurs beaucoup le font. Mais un des principaux moteurs de la modification du territoire, c'est ce qu'on appelle, donc du paysage, c'est ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Et ça, l'aménagement du territoire, c'est la chasse gardée des cantons et des communes, c'est prévu comme ça, il n'y a pas à le remettre en question, mais on observe que ça a des effets paradoxaux sur le paysage et qui rendent la crédibilité de l'inventaire IFP parfois discutable. Oui. Et d'ailleurs, c'est une conclusion à laquelle est arrivée la commission de gestion du Parlement au début des années 2000. Il a désiré examiner quel était l'effet de l'inventaire IFP. Et il n'est pas arrivé à la conclusion qu'il n'avait pas d'effet, Dieu merci, mais ses effets sont en dessous de ce qu'on pouvait souhaiter et espérer.
Alors justement, Benoît Magnin, est-ce qu'on ne touche pas là à un point crucial? Est-ce qu'il n'y a pas finalement une faiblesse constitutionnelle qui nous empêche tout simplement d'avoir une vraie planification paysagère à grande échelle, c'est-à-dire au moins à l'échelle régionale, intercantonale, dans une planification d'aménagement du territoire? Est-ce que finalement le problème, il n'est pas constitutionnel?
Donc le problème est identifié, mais il est soluble. La Confédération n'est pas la seule qui aurait la possibilité de protéger le paysage. Et je crois que tout l'enjeu, c'est que la reprise de cette thématique, de ce souci de préserver le paysage par les cantons, et ils le font. On n'est pas quand même dans une situation où les cantons ne tiennent pas compte du paysage. Ils font même leur propre paysage d'importance cantonale. Et de transcrire ça jusque dans les communes, ça se passe, mais je dirais que c'est le principal challenge, et c'est peut-être pas par des moyens légaux, mais c'est par des moyens de communication, peut-être aussi des aides financières un peu plus conséquentes de la part de la Confédération pour soutenir les efforts au niveau local, qu'on arrive à plus de cohérence de cet instrument IFP avec ce qu'on observe dans le paysage. Ceci dit, on a un sort de monitoring du paysage dont les premiers résultats montrent un effet quand même mesurable de l'IFP. Et c'est intéressant de le voir qui touche une thématique assez actuelle, c'est la protection des terres agricoles, où on voit qu'elles sont mieux protégées dans l'inventaire IFP. Donc là, on a vraiment une synergie avec ce souci de préserver notre base alimentaire. Et des enquêtes de satisfaction montrent que la population qui vit dans ces paysages, parce que c'est des paysages qui sont habités, qui sont vécus, a une qualité de vie qui est jugée statistiquement meilleure que la moyenne.
Merci beaucoup Benoît Magnin d'avoir été avec nous dans Prise de Terre ce matin. Puis si vous voulez en savoir plus, vous de l'autre côté du poste, à propos de cet inventaire fédéral des paysages, bien rendez-vous sur la page internet de Prise de Terre. Vous connaissez l'adresse rts.ch/ et Prise de Terre en un seul mot. À suivre dans Prise de Terre, des oiseaux, la bague au doigt. Heidi, happy on the hill. Bah tiens, ça tombe bien, on y monte, on y grimpe même, justement, maintenant, sur la colline. C'est pas un oiseau là-dedans.
Si, si.
Non.
Ah oui, c'est ça, la première de la saison. Hein.
Oh, mais elle est toute apeurée. C'est quoi?
Très calme. Une alouette Lulu.
Une alouette Lulu.
Exactement.
Comme moi, Lucille Lulu.
Voilà. On la reconnaît avec son grand sourcil blanc. Puis elle a un truc spécial, c'est que sur l'aile, elle a du blond ici, enfin, ça fait blond, noir, blond, blond, ah. Noir, blond.
Donc là, vous la mettez dans le sac et dans la cabane, vous lui mettez une petite bague.
Exactement.
Quelle belle activité que de passer la bague au doigt des oiseaux. Je ne suis pas tout à fait certaine que ça leur plaise beaucoup, surtout qu'on leur met la tête dans le sac. Mais enfin, c'est très utile. Ça sert évidemment à les recenser, ces oiseaux, mais ça sert surtout à évaluer l'impact des bouleversements paysagers, d'une part, mais aussi des changements climatiques sur les effectifs des migrateurs et aussi des nicheurs. Alors, il y a deux grandes stations de bagages en Suisse. Il y a celle du col du Bretelet, c'est celle de la station suisse, la station ornithologique suisse, celle de Sempach. Et puis, là où nous sommes maintenant, le col de Jamant, où chaque année, depuis 1990, des amateurs, assistés par des scientifiques du musée d'histoire naturelle de Genève, comme Laurent Valoton qu'on vient d'entendre, capturent environ entre 10 et 15 000 oiseaux entre début août et fin novembre. Alors les sessions de bagages viennent donc de se terminer. Trop tard pour que je vous y emmène cette année, c'est la raison pour laquelle je vous propose de découvrir ce lieu avec un reportage du 11 octobre 2012 qui avait été diffusé à l'époque dans l'émission scientifique et santé CQFD sur la première. Je vous propose donc de découvrir cette activité, de grimper tout de suite sur les lieux du crime.
Alors ici on est au col de Jamant. Donc c'est à 1500 mètres au-dessus de Montreux. On a une vue magnifique sur le lac Léman, d'un côté, du côté où les oiseaux vont. Et puis de l'autre côté, alors on a ce grand goulet, enfin ce grand entonnoir, qui est la vallée de l'Intiamont, qui va droit sur Mont-Bovon, la Gruyère. Et en fait, les oiseaux sont canalisés en fait le long de cette vallée. C'est la raison pour laquelle on a mis les filets ici, puisqu'ils sont concentrés le long de la vallée. Et puis ça débouche sur ce goulet, qui est au pied de la dent de Jamant. Et donc, il y a plus d'oiseaux ici qu'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'ici. Les oiseaux, en fait, migrent absolument partout. Ils migrent au-dessus des montagnes, certains 1000 mètres au-dessus. Ici, on attrape une toute petite partie de ceux qui migrent très, très bas. Et donc là, on en voit quelques-uns là-bas qui passent de sapin en sapin. Si on regarde un peu plus longtemps sur... Voilà, ici, vous en avez un qui passe, là...
Ah oui.
Bon, ceux qui sont derrière, c'est des plus gros, c'est pas des migrateurs, c'est des grands corbeaux. Mais si vous vous postez là, vous allez voir passer défiler en fait, des troupes de dizaines, centaines, de milliers d'oiseaux qui passent. La plupart passent largement au-dessus. Il suffit que le vent tourne un petit peu, qu'ils aient le vent en face, hop, ils volent un peu plus bas et ils se prennent en relativement grand nombre. Vous voyez là, tous les petits sacs qu'on a encore amenés à la cabane, là, il y en a des dizaines. Donc aujourd'hui, ça marche pas mal. Et bon, il y a surtout des pinsons. Oh, voilà, un oiseau qui vient de se prendre là.
Ah ouais, mais c'est un gros.
C'est un casse-noix moucheté. Ouais. Et il y en a un deuxième qui est là.
Oh, le pauvre.
Non, pas ça.
Ah si. Oh, non, le pauvre, il stresse.
On va le sortir alors. On va le sortir tout de suite pour pas qu'il stresse.
Oh.
Alors, c'est clair que on commence à bien connaître le déplacement de certains oiseaux, mais il y a toujours des choses qui sont très très mal connues, comme la longévité par exemple, qu'on peut aussi savoir avec le bagage. Hein. Si vous attrapez un casse-noix 20 ans après, ben vous pouvez dire voilà, le casse-noix peut vivre 20 ans. Sur les routes de migration, par où les oiseaux passent. Aussi, vous pouvez avoir une indication sur l'état des populations d'oiseaux. Si tout à coup, certaines années, vous attrapez plus du tout de telle ou telle espèce, ben vous pouvez dire ben il y a un problème avec cette espèce. Même si c'est plutôt sur le long terme en fait que c'est intéressant. Parce que d'une année à l'autre, il peut y avoir des grandes fluctuations. Mais si vous baguez sur le long terme, vous pouvez avoir des choses qui se dessinent, comme par exemple liées au réchauffement climatique. Vous commencez à attraper des oiseaux qu'on n'attrapait pas avant. Ça, on le remarque ici, alors très très nettement. Et alors, dernier point, qui est certainement pas le moins important, c'est un outil pédagogique absolument extraordinaire. Donc les gens viennent ici, des classes, des camps, ProNatura, VVF, etc., qui viennent observer ça. Et c'est clair que pour les enfants, de pouvoir voir les oiseaux de près, de pouvoir être confronté à la diversité d'espèces qu'il y a. Là, on a vu l'alouette lulu, il y a le pinson des arbres, le pinson du nord, rien qu'aujourd'hui, le casse-noix. Les voir comme ça tout près, que c'est quand même, il est beau, il est gros, il est, ouais. etc. Détailler à quoi ressemble son plumage, comment il vole, comment sont ses plumes, etc. Tout ça, c'est des outils extrêmement importants pour sensibiliser les gens à la diversité et puis à la fragilité de ces oiseaux et puis à leur beauté, puis pourquoi il faut les étudier, pourquoi il faut les observer, etc.
Qu'est-ce que vous avez appris récemment de ces campagnes de bagages?
Alors, on a par exemple mis en évidence que lié au réchauffement climatique, donc on attrape beaucoup plus d'espèces qui sont des espèces de plaine, par exemple, qu'on n'attrapait jamais ici parce qu'elles restaient toujours en plaine. Là, elles montent en altitude à cause du réchauffement, on commence à les attraper, comme par exemple le grimpeau des jardins ou la maison genonnette, qui étaient des espèces qu'on n'attrapait jamais puis qui sont devenues régulières.
Depuis quand?
Oh, depuis le milieu des années, depuis les années 2000, comme ça. Donc, on a bien vu, parce qu'on fait ça depuis 20 ans, mais il faut vraiment faire ça sur des longues périodes pour voir ce genre de phénomène. Et il y a des choses, oui, qu'on a apprises qui sont assez intéressantes, c'est que les oiseaux qu'on attrape ici, par exemple, ne vont pas au sud-ouest, comme ils devraient le faire normalement, mais en fait, modifient pas simplement leur trajectoire de migration. Parce qu'évidemment, quand on a un oiseau qui est bagué, puis après il est recapturé, on dessine une ligne droite, mais on ne sait pas trop ce qu'il a fait entre deux. Hein. Et ça, couplé avec des études qu'on a fait avec des radars, montrait qu'en fait, pendant que certains passent 1000 mètres plus haut, vont tout droit directement en direction du sud, ceux qu'on attrape ici, donc qui sont une catégorie particulière, est-ce qu'ils sont plus faibles, est-ce qu'ils viennent d'ailleurs, enfin, ça c'est reste à analyser. Mais ceux qu'on attrape ici, donc qui volent bas, ça c'est sûr, ils volent à moins de 10 mètres, eh ben ils migrent pas au même endroit que les autres. Ils suivent le terrain et puis ils sont capables de prendre des directions différentes. Et justement, le camp de bagages du col de Boitelet, qui est à 35 km pile dans la direction de migration, n'attrape jamais nos oiseaux. Donc ils recapturent jamais nos oiseaux. C'est bien la preuve que les oiseaux qu'on attrape ici ne vont pas en direction du sud, mais suivent les reliefs et probablement longent le lac Léman. Donc c'était une chose qu'on a pu mettre en évidence ici au col de Jamont.
Voilà, Laurent Valoton du musée ornithologique, du musée d'histoire naturelle, pardon, ornithologie de Genève. C'était une nouvelle diffusion d'une séquence diffusée dans le magazine Science et Santé CQFD le 11 octobre 2012. Alors je vous le disais, la session de bagages de cette année vient de se terminer, notamment au col de Bretelet, et la station ornithologique suisse a fait savoir un fait remarquable qui a été noté cette année, mais aussi sur le long terme. Hein. C'est le retard de certains migrateurs sur leur horaire de départ. Certains migrateurs sont même encore ici alors qu'ils auraient dû prendre leur envol depuis longtemps vers les rives de la Méditerranée. Alors évidemment, les scientifiques pensent que c'est un indicateur important du fait que le réchauffement climatique est déjà à l'œuvre dans notre pays. Voilà, merci à Samuel Morier-Genoux qui a réalisé cette émission, Yves Hélène qui en a signé la programmation musicale et Annette Kléber, assistante de production. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit. Et tout de suite, je vous donne rendez-vous avec Thierry Fischer pour Médialogue. Bonjour Thierry.
Bonjour Lucille. On va parler d'un développement informatique assez étonnant. Des chercheurs de Google ont développé un logiciel qui savent décrire et écrire une image.
Oui.
Incroyable.
Oui, donc je ne me rends pas très bien compte.
Vous passez une image à travers le logiciel et le logiciel vous explique ce qu'il y a sur l'image.
Effrayant.
Assez incroyable.
Effrayant surtout.
On va tout comprendre au lieu d'en avoir peur tout à l'heure.
Vous écoutez La Première, vous avez bien raison, il est 10h.